franceinter.fr.
Voir à travers le trou de la fontanelle le fonctionnement du cerveau des tout-petits, eh bien des chercheurs français et suisses viennent de mettre au point une toute nouvelle méthode d'imagerie à ultrasons, spécialement conçue donc pour les nouveau-nés. Des travaux inédits menés à l'hôpital Robert Debré à Paris et que nous découvrons avec l'un des auteurs principaux, Axel.
Oui, nous accueillons Olivier Beau au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin agrégé aux hôpitaux universitaires de Genève et vous êtes responsable de l'équipe à l'INSERM qui a mené ces travaux. Alors pourquoi l'imagerie du cerveau des nouveau-nés nécessite des méthodes particulières ?
Alors, cette imagerie est nécessaire parce que le nouveau-né, notamment le nouveau-né prématuré, est à risque de lésions cérébrales et il est très important de connaître le bon fonctionnement ou l'activité cérébrale en lien avec cette prématurité ou des événements qui surviennent pendant son hospitalisation.
Et on ne peut pas utiliser les méthodes classiques facilement, c'est ça ?
Alors, il existe d'autres méthodes, comme par exemple l'électroencéphalogramme ou les IRM fonctionnels, mais ces deux méthodes présentent des désavantages. Il faut soit transporter l'enfant auprès de l'IRM, soit le G ne va pas pouvoir montrer l'activité cérébrale sur un plan anatomique. On ne va pas pouvoir localiser cette activité cérébrale en continu.
Ça peut représenter des risques pour un enfant d'être placé dans une IRM très jeune ou pas ?
Non, ça ne présente a priori pas de risque. Le seul risque, c'est surtout de déplacer l'enfant, parfois dans un centre ou dans une pièce éloignée de son univers habituel. Et on sait que de déplacer un enfant vulnérable, parfois avec un poids de naissance extrêmement petit, peut être délétère pour cet enfant.
Alors la technique que vous avez développée utilise les ultrasons. Quelle différence avec l'échographie qui utilise aussi les ultrasons, je crois ?
Alors, ce sont des ultrasons. La grande différence, c'est la fréquence à laquelle on va acquérir les images. Sur l'ultrason classique, les images sont acquises à la vitesse de 50 images par seconde. Avec la nouvelle technique que nous avons développée avec Michael Tanter, il y a environ 10 000 images par seconde qui sont produites. Et ainsi, on peut visualiser des structures beaucoup plus fines, par exemple des tout petits vaisseaux. Et on peut également visualiser des flux sanguins beaucoup plus lents.
Alors pourquoi avoir besoin de passer par la fontanelle, ce trou dans le crâne des nouveau-nés ?
Eh bien, tout simplement parce que les ultrasons passent assez mal l'os. Et lorsque l'os et la fontanelle se referment, eh bien, il va y avoir une ossification de cette partie. Et donc, on va avoir un accès moins important. Il est possible de faire de l'ultrason transcrânien, mais on perd un petit peu en sensibilité. Et donc, on perd la capacité de faire de l'ultrason fonctionnel.
Olivier Beau, votre technique s'appelle Fusil, c'est ça ?
Oui, ça veut dire imagerie fonctionnelle par ultrason en anglais.
C'est un drôle de nom pour un outil qui sert aux petits, non ?
Oui, c'est sûr, oui.
Quels sont les enjeux derrière Fusil, du coup, pour vous, pour traiter les enfants prématurés ?
Alors, les enjeux sont multiples. Le premier, c'est déjà d'observer et de visualiser l'activité cérébrale. En fonction des événements qui peuvent survenir auprès de cet enfant, en fonction des traitements qu'on lui donne, au cours du temps et en temps réel. L'autre apport de cette technique est de pouvoir monitorer sur une longue durée cette activité cérébrale, un petit peu comme on le fait lorsqu'on monitore la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire ou la saturation en oxygène dans le sang.
C'est pour pouvoir réagir rapidement, je ne sais pas, en donnant un médicament ou en faisant un soin particulier ?
Oui, exactement. En fait, c'est pour mettre en adéquation parfaite les traitements que l'on donne par rapport aux besoins. Pour donner un exemple, lorsqu'on a une chute de tension, cette chute de tension, elle est mesurée au brassard, au niveau d'un membre. On ne sait pas si cette chute de tension va retentir sur l'activité cérébrale. Avec cette technique, on va pouvoir savoir si cette chute de tension doit être traitée parce qu'elle a un impact négatif sur l'activité cérébrale.
Et vous pouvez utiliser du coup cette technique jusqu'à quel âge, à peu près ?
Alors théoriquement, on peut l'utiliser jusqu'à ce que la fontanelle se ferme, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 6 mois à 1 an. Mais cette technique va surtout être développée et utile pour les enfants en soins intensifs, c'est-à-dire généralement dans les premiers jours de vie ou les premières semaines de vie.
Alors vous disiez vouloir suivre en continu l'activité du cerveau avec cette technique. On est sûr que des ultrasons dans un cerveau en développement en continu, c'est pas dangereux ?
Alors oui, on a des seuils à ne pas dépasser. Il faut savoir que notre technique utilise des intensités mécaniques, comme on dit, qui sont 1/10 de la limite autorisée. Et donc, finalement, l'activité, par exemple, de d'échauffement des tissus par les ultrasons est très très limitée par cette technique.
Est-ce que d'un point de vue de la...
Alors on a nos invités qui veulent réagir,
je me demandais si le cerveau de certains enfants ne pouvait pas être dangereux pour la machine à ultrasons.
Bonne question.
Ouais. Olivier Beau.
Est-ce que les cerveaux des enfants pouvaient être dangereux pour l'ultrason?
Oui.
Il y a un petit sourire avec la question.
Jean Oudouze.
Non, je voulais simplement dire que c'est une recherche qui est faite avec l'Institut Langevin. Et nous, on est tous les trois, on est très amis avec Mathias Fink et Michael Tander. Donc je crois que ils sont à l'origine.
Absolument.
Ce sont des gens vraiment géniaux et qui travaillent à côté de Jussieu. Voilà.
Peut-être une dernière question, compte tenu du travail que vous avez mené. Est-ce que, d'un point de vue de la recherche, on peut imaginer aussi découvrir des choses avec cette imagerie ?
Oui, par exemple, et c'est d'ailleurs le sujet de la dernière partie de l'article, on va pouvoir mieux comprendre comment diffuse et se propage l'activité cérébrale lors d'une convulsion. Et on sait que cette propagation est très dépendante du timing par rapport au début de la convulsion, et ainsi mieux comprendre sur le plan fondamental comment se propagent ces convulsions et donc peut-être mieux les traiter.
Combien d'enfants est-ce que vous avez déjà passé, j'ai envie de dire, avec ce fusil ?
Alors, bravo. On a passé, l'étude, on en a passé une petite dizaine. En fait, cette étude est surtout une preuve de concept. Il nous faut encore différentes étapes de développement afin d'améliorer encore le concept et la technique pour l'implémenter dans clinique. Mais à partir du moment où on pourra la faire utiliser par les soignants, on pourra imaginer qu'un grand nombre de patients et de prématurés pourront en bénéficier, probablement à une échéance d'environ 2 à 3 ans.
Merci beaucoup en tout cas Olivier Beau avec cette technique. Alors c'est vrai que le nom n'est pas très heureux, un fusil, mais en tout cas la technique est vraiment très intéressante et c'est une première à laquelle vous êtes à l'origine avec vos confrères. Merci beaucoup pour vos explications et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, la découverte d'anneaux autour d'une planète naine. Elle s'appelle Oméa. Elle orbite loin du Soleil, derrière Neptune. Elle est entourée d'anneaux de poussière. Déjà intrigante par sa forme de ballon de rugby, Oméa l'est maintenant encore un peu plus. La découverte de l'anneau a été possible au moment du passage de ce petit corps de 2000 km de diamètre devant une étoile lointaine et lumineuse, suivi par 12 télescopes dans le monde. Un anneau surprise, large de seulement 70 km, qui pose de nombreuses questions quant à sa forme et à sa durabilité. Deux vaccins expérimentaux contre le virus Ebola, l'un canadien, l'autre américain, se révèlent prometteurs pour protéger contre cette fièvre hémorragique. C'est le résultat d'un essai clinique mené au Libéria sur 1500 personnes. Les participants ont reçu l'une des deux doses ou un placebo pour ce test. 84% des patients ayant reçu la dose canadienne ont développé des anticorps spécifiques contre 64% pour le sérum américain. Des résultats très encourageants donc pour l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses qui pense que ces deux vaccins pourrait être approuvé d'ici 2018. Et puis pour terminer, les rats et les souris du métro new-yorkais évoluent pour manger les restes des fast-foods. Après avoir collecté de nombreux nuisibles dans les rues et les tunnels de la capitale, des chercheurs montrent que la plupart d'entre eux présentent tout un tas de mutations génétiques originales. Les gènes impliqués dans la digestion et le métabolisme sont les plus affectés en comparaison avec les rats et les souris de la campagne. Les rats du métro ont acquis par sélection des capacités plus importantes pour digérer les graisses et les sucres que nous laissons derrière nous.